une question qui mérite toute notre attention. Qu'est-ce qu'il faut faire pour accomplir la volonté de Dieu? La Sainte Écriture va nous révéler ce dont nous avons absolument besoin aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, on continue aujourd'hui à recevoir un puissant enseignement de la part de Dieu dans le livre de l'Apocalypse. Ça m'épate de recevoir autant de richesses pour ma vie de croyante. Toute cette connaissance qui amène à mieux connaître notre Dieu, pour pouvoir le servir avec joie et pour avoir à la fois une vie aussi abondante. Gloire à Dieu! Voici ce qu'on va lui demander aujourd'hui. De quoi avons-nous besoin pour accomplir la volonté de Dieu et pour ressembler à Jésus-Christ? Puisque nous sommes sauvés par la foi, à quoi est-ce que ça sert d'accomplir des œuvres? Pouvons-nous perdre notre salut? Qu'est-ce que le Seigneur veut dire quand il affirme à l'église de Sardes qu'il n'a pas trouvé ses œuvres parfaites devant son Dieu? Quelle solution le Seigneur donne-t-il aux croyants pour qu'ils soient trouvés debout lors de l'enlèvement? Est-ce que le protestantisme comprend encore des gens qui restent fidèles à la parole de Dieu? Restez à l'écoute. Le pasteur Régent Joly va répondre à nos questions par la parole merveilleuse de Dieu dans quelques instants. Mais premièrement, prions. Oui, Seigneur, ta parole est merveilleuse et on veut en bénéficier pleinement aujourd'hui. Aide-nous à nous arrêter, à vraiment écouter avec notre cœur tout ce que tu vas nous enseigner et aide-nous à le pratiquer pour ta gloire. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. Chers amis, nous poursuivons notre étude de l'Apocalypse au chapitre 3. La lettre de Jésus-Christ à l'église de Sardes. Dans le panorama de l'histoire de l'Église, Sardes représente l'Église protestante dans une période partant de 1517 allant jusqu'à environ 1800. Cette période a commencé lorsque Martin Luther a accroché ses 95 thèses sur la porte de l'Église de Wittenberg, en Allemagne. Cet écrit s'élevait contre le trafic des indulgences. Rome vendait des indulgences aux chrétiens en leur faisant croire qu'ils pouvaient acheter leur place au ciel. Cette époque couvre donc plusieurs siècles, à partir des débuts de la Réforme jusqu'au début des grands mouvements missionnaires qui ont couvert le monde. Mais revenons au temps de l'apôtre Jean. Sardes était la capitale du royaume de Lydie. Cette ville était l'une des plus anciennes et plus importantes d'Asie mineure. Elle était située à l'intérieur des terres, sur un petit plateau qui s'élève en pente raide au-dessus de la vallée du Pactole. Sur tous les côtés de ce plateau, sauf un, le rocher était lisse et ses murs pratiquement à angle droit. Même aujourd'hui, malgré l'érosion du sol et un tremblement de terre au premier siècle, l'escalade sur ces trois versants s'avère très difficile. Le seul accès s'effectue par la route du sud, sur un chemin lui aussi en pente raide. Il fallait être en bonne forme physique pour s'y rendre à pied. Avec le temps, la civilisation et le commerce se sont développés. Et le plateau surélevé est devenu trop petit pour contenir toute la ville. Une basse ville a alors été construite, surtout à l'ouest de la vieille ville. Celle-ci servait alors d'acropole. Sardes était donc, en réalité, deux villes, et elle était appelée par le nom pluriel Sardas ou Sardis. La plaine environnante était bien irriguée par la rivière Pactole. Ce nom synonyme de richesse vient du fait que, selon certains auteurs, ce cours d'eau roulait des paillettes d'or. Le dernier prince de cette ville a été le richissime Crésus, qui a été capturé par Cyrus, roi des Mèdes et des Perses. La réputation de Crésus s'est répandue jusqu'à ce jour. Comme Midas, tout ce qu'il touchait semblait se transformer en or. Comme nous l'avons déjà vu, l'empire des Mèdes et des Perses a finalement succombé sous l'assaut des Grecs, dirigé à leur apogée par Alexandre le Grand. Après Cyrus, Sardes est donc passée sous le contrôle d'Alexandre, et plus tard, Antiochos le Grand. Ce dernier a été éventuellement vaincu par l'Empire romain. la ville a été finalement détruite par un tremblement de terre sous le règne de Tibère. De nos jours, les ruines du temple de Cybèle et celles du temple d'Apollon peuvent encore être visitées. Il s'agit en fait d'un double temple. À Sardes, Cybèle était connue comme la déesse de la lune et Apollon comme le dieu du soleil. D'importantes fouilles archéologiques ont été entreprises à Sardes. On a rebâti le gymnase et également la synagogue. L'ancienne route romaine menant à la ville a également été recouvrée. Le voyageur peut donc emprunter aujourd'hui la même route que l'apôtre Jean au premier temps de l'Église. Voyons maintenant son message à l'Église de Sardes. Une Église à l'agonie. Apocalypse, chapitre 3, verset 1. Écrit à l'ange de l'Église de Sardes, « Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Par l'intermédiaire de l'apôtre Jean, notre Seigneur se présente à l'Église de Sardes comme celui qui a les sept esprits de Dieu. En fait, il est celui qui a envoyé le Saint-Esprit dans le monde. » Comme nous l'avons déjà indiqué, Sardes représente l'Église protestante. Et il est tout à fait opportun de se faire rappeler que le Saint-Esprit œuvre présentement au milieu de nous. Car nous avons absolument besoin de la puissance du Saint-Esprit pour accomplir la volonté de Dieu. Nous avons souvent tendance à penser que nous avons besoin de cours, de méthodes et de programmes pour servir Dieu. Nous pensons qu'avec ces choses, nous résoudrons tous nos problèmes. Mais en réalité, nous avons surtout besoin d'une relation personnelle avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est seulement en laissant travailler la puissance du Saint-Esprit qui habite en nous que nous pourrons arriver à ressembler à Jésus-Christ. Nous avons grandement besoin de cette puissance aujourd'hui. Donc, après les temps obscurs du Moyen Âge, le Saint-Esprit était à l'œuvre. Il a touché le cœur de plusieurs hommes, comme John Knox en Écosse, Martin Luther en Allemagne et Jean Calvin en France. La foi sans les œuvres. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. La Réforme a introduit la doctrine de la justification par la foi. Grâce à elle, le croyant sait que ce ne sont pas ses propres œuvres qui lui procurent le salut, mais la foi en Jésus-Christ. C'est lui qui accomplit sur la croix la justification qui nous procure la vie éternelle. Malheureusement, beaucoup de croyants pensent que cela leur donne la permission de sombrer dans la paresse. Ils se disent, « Je suis déjà sauvé et j'ai l'assurance de mon salut. Je n'ai rien d'autre à faire puisque j'ai déjà reçu Jésus-Christ par la foi. » C'est contre cette erreur que s'élève l'apôtre Jacques dans son épître au chapitre 2, verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. En d'autres mots, il est exact de dire que nous ne sommes pas sauvés par les bonnes œuvres, mais nous sommes sauvés par la foi pour accomplir de bonnes œuvres. Et l'apôtre Paul, qu'on appelle l'apôtre de la foi, est tout à fait d'accord sur ce point dans le deuxième chapitre de l'Épître aux Éphésiens. En premier lieu, il affirme clairement la doctrine de la justification par la foi, au verset 8 et 9. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Malheureusement encore, trop de gens arrêtent là leur lecture sans comprendre le verset suivant. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. En d'autres mots, si la foi n'est pas suivie par l'obéissance à la volonté de Dieu, s'accomplissant dans les bonnes œuvres préparées d'avance pour nous, peut-on parler d'une foi véritable? Une telle foi est morte. En fait, l'apôtre Jacques va jusqu'à comparer une foi qui n'est pas suivie par de bonnes œuvres à la foi des démons. C'est ce que nous lisons dans Jacques chapitre 2, les versets 19 et 20. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Les démons savent que Dieu existe. Et dans le Nouveau Testament, ils courbent la tête devant l'autorité de Jésus-Christ. En cela, ils font preuve de plus de discernement que beaucoup d'hommes. Mais leur foi les sauvera-t-il? Absolument pas. Je sais que tu passes pour être vivant, et tu es mort. Beaucoup de gens dans les églises chrétiennes prétendent être vivants parce qu'ils disent avoir la foi. Mais, en réalité, ils sont morts, car leur prétendue foi est totalement dépourvue d'œuvre. Or, on ne se moque pas de Dieu. On reconnaît un arbre à ses fruits. Mais si un arbre ne porte pas de fruits, comment peut-il prétendre être un arbre fruitier? Cela signifie-t-il qu'on peut perdre son salut? Non, mais l'homme qui dit être sauvé, sans jamais obéir à Dieu, en accomplissant les bonnes œuvres préparées d'avance pour lui, n'a jamais été sauvé. Sa foi est fausse et morte. Il passe pour être vivant, même à ses propres yeux, mais en réalité, il est mort. Je l'ai dit et je le répète, le Dieu de la Bible est un Dieu relationnel. Il désire mon amour avant toute autre chose, c'est vrai. Mais si je prétends aimer Dieu sans jamais chercher à faire ce qui lui est agréable, cet amour n'est que belle parole, illusion ou hypocrisie. Aujourd'hui, le protestantisme, dans son ensemble, passe pour être vivant, mais il est mort. Beaucoup d'églises protestantes se contentent d'observer la forme de la foi. Beaucoup de fidèles viennent à l'église le dimanche matin, et leur implication s'arrête là. Ils ont l'impression qu'après avoir usé leur fond de culotte sur un banc d'église pendant quelques heures le dimanche, ils ont fait leur devoir de chrétien. Mais le Seigneur dit, « Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, et tu es mort. » Dans plusieurs autres églises, la formule « Je connais tes œuvres » est habituellement suivie de félicitations. Mais ici, elle sert de condamnation. Quel jugement effrayant sur l'Église protestante aujourd'hui! Nous devons reconnaître que toute la vérité n'a pas été recouvrée à l'époque de la Réforme. Entre autres, je crois que la doctrine concernant les derniers temps et les prophéties commence à peine à se développer de nos jours. Réveillez-vous! Apocalypse, chapitre 3, verset 2. « Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. » Commençons par la fin du verset. « Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. » Dans le texte original grec, le mot traduit ici par « parfaite » peut également être traduit par « accompli » ou « complété ». La plupart des traductions françaises sont, avouons-le, un peu complaisantes. Je crois que la traduction de la Nouvelle Bible Second, 2002, tient plus compte du contexte. « Je n'ai pas trouvé tes œuvres pleinement accomplies devant mon Dieu. » Jésus parle ici à une église dont l'ensemble est mort et dont le reste est prêt de mourir. Dans ces conditions, il ne s'attend pas à des œuvres parfaites, mais simplement accomplies. Dans notre ministère envers Dieu, nous devons éviter deux extrêmes. La première erreur est celle de l'église d'Éphèse. Dans son souci de travailler pour Dieu, elle en faisait trop, et elle avait négligé sa relation avec Dieu. Ce dernier lui reproche alors d'avoir oublié son premier amour pour lui. La deuxième erreur est celle de l'église de Sardes. Elle se dit, « Bof! Je suis sauvé de toute façon, alors pourquoi faire des efforts ?» Dans un cas comme dans l'autre, l'erreur vient d'une relation déficiente envers Dieu. Ce dernier ne nous demandera jamais de nous épuiser à la tâche, car alors nous n'aurions plus de temps et d'énergie pour notre relation avec lui. Mais, de notre côté, les tâches qu'il nous demande de faire sont utiles pour faire fructifier les dons, talents et habiletés qu'il a investis en nous. De plus, Dieu nous a créés pour être glorifiés dans nos vies. Qu'on se le dise, nous ne vivrons jamais une vie chrétienne pleine et satisfaisante en demeurant les bras croisés. L'avertissement « Sois vigilant » se comprend facilement lorsqu'on connaît l'histoire de la ville de Sardes. Comme nous l'avons vu, l'ancienne cité était sise sur un haut plateau accessible seulement du côté sud. Pour défendre la ville, on pensait donc qu'il suffisait d'affecter un détachement à la surveillance de ce côté. Or, les deux seules fois où la ville a été prise par l'ennemi, elle l'a été du côté des falaises réputées inaccessibles et donc non protégées. Vers 546 avant Jésus-Christ, la ville est assiégée par l'armée perse de Cyrus. Un de ses soldats escalade une crevasse dans la falaise sans être observé par les défenseurs et ouvre la grande porte de la ville de l'intérieur. Ce fait d'armes était à ce point remarquable que pendant longtemps, l'expression « prendre Sardes » était synonyme d'accomplir l'impossible. Plus tard, vers 216 avant Jésus-Christ, Antiochos III, le Grand, s'approche pour mater la ville rebelle. Un Crétois nommé Lagoras escalade à son tour le parapet pour livrer la ville entre les mains des envahisseurs. Pour ajouter l'insulte au désastre, Lagoras n'a pas accompli son exploit seul, mais il est accompagné de 15 hommes. Et cela sans éveiller les soupçons des gardiens négligents de la ville. Même si la ville avait déjà été conquise une fois auparavant en escaladant la falaise réputée imprenable, les gardiens avaient péché par excès de confiance. Ils avaient manqué de vigilance et ils en ont payé le prix. Ici, le Seigneur dit à l'église de Sardes, « Soyez vigilants !» En d'autres mots, « Réveillez-vous et ne vous laissez pas surprendre une autre fois !» Cet avertissement aurait dû être bien compris, car la ville s'était déjà laissée prendre par deux fois par sa propre faute. Oui, le Seigneur a raison de dire, « Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. » Le protestantisme a bien recouvré certaines doctrines, comme l'autorité de la parole de Dieu, la totale dépravation de l'homme et la justification par la foi. Mais elle n'a pas pleinement retrouvé l'ère apostolique qui caractérisait les premiers temps de l'Église. La solution? Apocalypse, chapitre 3, verset 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. L'Église devait se rappeler ces choses et les garder, car elle était sur le point de mourir. Et la situation est encore plus critique aujourd'hui. Les grandes vérités recouvrées pendant la Réforme courent le risque de se perdre. Dans l'ensemble de l'Église protestante, l'autorité de la parole de Dieu est battue en brèche depuis plus d'un siècle par les faux enseignants. Plutôt que de conserver la doctrine de la dépravation totale de l'homme, nous essayons de maquiller notre nature charnelle en pensant qu'avec quelques petites règles et quelques méthodes, nous pourrons vivre chrétiennement sans l'aide du Saint-Esprit. La justification par la foi a également beaucoup souffert. Nous recevons à la place un message légaliste que nous devons faire certaines choses pour être sauvés. Ces nouvelles positions de l'Église protestante sont loin d'être les mêmes qu'auparavant. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. L'avertissement à la vigilance du dernier verset est repris ici. Par deux fois, les armées ennemies étaient venues à bout de la ville, non par une attaque frontale, mais par une voie détournée et imprévue. Les gardiens de la ville s'étaient laissés prendre. Mais nous devons garder la parole de Dieu et nous repentir de notre négligence. « Je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. » Combien de fois le Seigneur nous a-t-il avertis de cette manière? Et à chaque fois, il fait référence au jour du Seigneur, ou le jour de l'Éternel dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 2, et verset 4, ainsi que 2 Pierre chapitre 3, verset 10. Encore plus tard, dans l'Apocalypse chapitre 16, verset 15, il répétera encore son avis de vigilance. il viendra comme un voleur, ou plutôt, il reviendra comme un voleur au jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. Pourtant, le protestantisme, dans son ensemble, ne surveille plus le retour de Jésus-Christ. Nous avons construit ces systèmes où nous pensons que certaines choses devront être accomplies avant son retour. Or, dans les conditions actuelles, Jésus-Christ pourrait revenir n'importe quand pour chercher son Église. Il pourrait venir aujourd'hui ou demain, ou peut-être dans un siècle. Personne ne sait au juste quand il reviendra. Mais nous devons nous tenir prêts. La ville de Sardes savait que l'ennemi était là, sous ses portes, mais elle s'est laissée surprendre quand même. À combien plus forte raison devrions-nous être vigilants? Car nous ne savons même pas quand notre Seigneur reviendra. Mais nous savons qu'il reviendra un jour, et il nous avertit de nous tenir sur nos gardes. En sachant que l'enlèvement de l'Église pourrait subvenir à n'importe quel moment, nous devrions être sur un pied d'alerte. La date n'est pas fixée. Nous ne savons pas en quel temps Jésus reviendra, mais, comme il est écrit dans Tite chapitre 2, le verset 13, nous attendons la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Un petit reste fidèle. C'est ce que nous lisons dans notre dernier verset d'aujourd'hui, Apocalypse chapitre 3, le verset 4. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. En Israël, l'ensemble de la nation n'a jamais été fidèle à Dieu, mais ce dernier se préservait toujours un petit reste du peuple. Ici, l'Église reçoit le même message. Tu as à Sardes quelques hommes. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 12, verset 32, le Seigneur appelle son Église un petit troupeau. Le protestantisme contient encore aujourd'hui, comme à toutes les époques, un petit reste fidèle à la parole de Dieu et qui porte son fruit sans se complaire dans des activités pécheresses. L'Église protestante a produit quelques grands noms. Nous avons déjà mentionné Martin Luther, John Knox et Jean Calvin. Ceux-ci sont peut-être les plus grands, mais il y en a eu d'autres. John Bunyan, qui a écrit « Le voyage du pèlerin », un genre d'autobiographie où il raconte comment le Seigneur l'a sauvé d'une magnifique façon. John Wesley a fondé l'Église méthodiste. Je suis absolument convaincu que si la France avait eu son John Wesley, elle aurait pu passer d'un système féodal à un système démocratique sans sombrer dans le bain de sang de la Révolution. Seul le réveil spirituel du XVIIIe siècle peut adéquatement expliquer le passage, beaucoup plus en douceur, de l'Angleterre à l'ère industrielle. Wesley a déjà été appelé le plus grand Anglais de tous les temps, et il a certainement fait plus pour son pays que tout autre citoyen britannique. Le protestantisme a produit beaucoup d'autres hommes qui ne se sont pas souillés et qui sont restés fidèles à la parole de Dieu, et il en produit encore aujourd'hui dans plusieurs pays. Je n'oserais jamais tenter d'en nommer quelques-uns, de peur d'en oublier d'autres, mais Dieu les connaît. Et un jour, ils marcheront tous avec lui en vêtements blancs. Tu veux toi aussi un jour porter ce vêtement blanc? Tu n'as qu'à demander à Jésus de te laver, de te purifier de tout péché. Tourne-toi vers lui, implore son pardon et accueille-les en tant que sauveur de ta vie. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant l'Apocalypse chapitre 3, les versets 5 à 8. À vous tous, je vous souhaite une bonne lecture.
Merci Régent. Mes amis, on a réellement pu voir aujourd'hui combien le Seigneur veut qu'on ait une vie bien équilibrée. Je dis ça suite à ce que Régent a mentionné concernant le fait que Dieu veut qu'on évite deux extrêmes qui sont soit de nous épuiser à la tâche parce qu'on n'aurait plus de temps et d'énergie pour notre relation avec lui, ou bien de demeurer les bras croisés en ne pratiquant pas les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Et avec mon tempérament d'artiste, je dois personnellement faire attention à ces deux extrêmes. Et je remercie le Seigneur de ce qu'avec les années, il m'a enseigné à avoir un agenda qui me permet d'administrer mon temps un peu plus sagement. mais je dois être vigilante. C'est si facile de tomber dans l'activisme et de faire plein de choses que Dieu ne nous demande même pas, pour ensuite être tellement épuisé qu'on n'est plus capable de faire quoi que ce soit. Je ne sais pas si j'ai déjà partagé ceci avec vous, mais je pense parfois à la manière de vivre que j'avais quand j'ai fait mes premiers pas en tant qu'enfant de Dieu. C'est vrai que pendant ma première année de vie chrétienne, je venais de quitter le domaine artistique et je n'avais pas encore trouvé de quelle façon j'allais gagner ma vie. Alors je vivais donc sans trop de responsabilités et je pouvais lire la Bible jusqu'aux petites heures du matin, me lever un peu plus tard que la moyenne des gens, prendre encore un bon temps avec le Seigneur, puis partir me joindre à un groupe de chrétiens qui chantaient des louanges et aussi aller avec mon pasteur et son épouse pour annoncer la bonne nouvelle du salut à des gens qui demandaient de nous rencontrer. Je n'avais pas d'horaire fixe et je vivais au jour le jour. L'épouse de mon pasteur me faisait traduire des leçons bibliques de l'anglais au français, ce qui me donnait encore plus de connaissances de la parole de Dieu. Et je peux donc vous dire sincèrement que je flottais entre ciel et terre. Et je suis convaincu aujourd'hui, avec un recul, que c'est exactement ce que Dieu voulait pour moi à l'époque, puisque je venais de sortir d'un milieu qui m'avait littéralement rendu malade physiquement et émotionnellement. Et dans son amour, Dieu m'a restauré pendant cette année-là. Ensuite, ça a été le retour sur le marché du travail et je remercie le Seigneur de m'avoir placé à des endroits où il m'était permis de partager l'Évangile. Et enfin, plusieurs années plus tard, Dieu m'a en quelque sorte redonné mon métier de chanteuse et de musicienne, mais cette fois-ci, c'était un ministère, un moyen de servir mon Dieu merveilleux, par des cantiques de louanges et par des événements d'évangélisation. Et tout ça m'a amené enfin à la radio, à la télé, ce moyen par excellence d'annoncer la bonne nouvelle du salut par grâce aux auditeurs et aux téléspectateurs qui veulent soit mieux connaître Dieu ou simplement le connaître tout court. Alors merci, chers auditeurs, merci, chers amis, pour votre écoute fidèle de l'émission À travers la Bible. Quelle joie pour moi de vous parler de notre Créateur, de vous parler de notre Sauveur, de notre Seigneur quotidiennement. Alors je demande à Dieu de vous bénir, de vous mettre à cœur de continuer à écouter nos émissions, parce qu'on a tous besoin d'entendre la parole de Dieu. On a tous besoin d'être encouragés à savoir comment il veut qu'on travaille pour lui, ce qu'il veut changer dans notre vie, comment il veut nous sanctifier, et pour que les gens aussi qu'ils connaissent pas puissent connaître justement ce grand amour qu'il a pour nous, ce grand amour qu'il l'a amené jusqu'à la croix. Cette croix où Jésus a payé la dette de nos péchés, afin qu'on ait la vie éternelle. Alors remercions Dieu quotidiennement. Remercions-le pour le don gratuit de la vie éternelle.
Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir?
C'est justement comme ce que tu viens de dire, Réjean, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer. Et ensuite, on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne, comme toi, Réjean. La dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épatée. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé. Et en même temps, ton sens de l'humour qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors c'est ça un merveilleux déjeuner de l'espoir. Ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit.
Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners?
Vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647 ou via courriel.
À www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, province de Québec, le G1G 6P2. Au revoir.
Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.